journal, Pierrot et la Mégie.
Et voici pas l'articulation de votre journal. Une double attaque de présumés rebelles à Def dans les secteurs de Rwenzori et dans la commune rurale de Oïtia a béni fait 12 morts, dont 11 civils la nuit d'hier, mardi à ce mercredi. Notre confrère André Kitenge nous fera le point en début de ce journal. Carence des magistrats à l'Équateur, conséquence des dossiers des justiciables qui traînent longtemps, certains plaignants à bout de patience préfèrent se faire justice. Et c'est pourquoi l'Institut de formation internationale en droits humains et vigilance plaide pour la nomination des nouveaux magistrats. Relance du processus de démobilisation et réinsertion communautaire des ex-combattants et leur communauté. Dans leur communauté, plusieurs projets de relance économique ont été identifiés au cours d'une série de réunions il y a quelques jours à Goma entre le gouvernement provincial du Nord Kivu et la Banque mondiale. Et pour en parler, nous recevrons avant la fin de ce journal Karline Zanzoukasevita, gouverneur du Nord Kivu. Il est l'invité de votre journal. Merci de suivre ce journal mis en onde par Alain Goy. À Beni, 12 morts, dont 11 civils, c'est le bilan provisoire d'une double attaque perpétrée dans la nuit d'hier mardi à ce mercredi par des présumés rebelles ADEF dans deux zones différentes. La première attaque a eu lieu à Kisima, dans le secteur de Rwenzori, et la deuxième dans la commune rurale d'Oïtia, chef-lieu du territoire de Beni. André Kitenge nous en dit plus.
La première incursion des présumés rebelles ADF a eu lieu au village Kisima, groupement Malambo, dans le secteur de Rwenzori. Selon le président de la société civile locale, c'est vers 18h locales que ces hors-la-loi ont fait incursion dans le village, tuant ainsi 10 civils dont une femme. Un bilan provisoire selon Wilson Batoleni, car la fouille d'autres corps se poursuit encore. La même source indique aussi qu'une maison de commerce, avec son propriétaire à l'intérieur, a été incendiée par les assaillants. La deuxième attaque, cette fois-ci, a eu lieu aux environs de 23h dans la commune rurale d'Oïtia, chef-lieu du territoire de Beni. Selon des sources sur place, les assaillants sont arrivés au quartier Pakanza, où ils ont réussi à tuer un Motorola de type civil. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
On parle encore insécurité dans la province de l'Ituri avec 11 morts ainsi qu'une dizaine de maisons incendiées. C'est le bilan provisoire d'une incursion hier mardi tendue par un groupe de miliciens de la Force Patriotique Intégrationniste du Congo FPIC dans le village Mugangu, dont la chefferie des Babelebe dans le territoire du Rumo. Parmi les victimes, il y a des femmes et des enfants qui ont été abattus dans leur domicile et d'autres au champ. La société civile locale et le notable plaident pour des opérations de grande envergure en vue de neutraliser cette milice qui déstabilise cette entité territoriale. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
C'est en début d'après-midi d'hier que ces miliciens munis de fusils et d'armes blanches ont pris d'assaut cette zone située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bounia. Ils ont ouvert le feu sur la population locale. 7 personnes, dont 3 enfants et 2 femmes, ainsi qu'un chef de localité, sont morts sur place. Leurs corps ont été ensuite découpés par les machettes, affirment certains témoins. Des sources sécuritaires dans la zone renseignent que 4 autres corps, mutilés, des 3 femmes et un enfant, ont été découverts après le retrait de ces hommes dans cette localité. Ces inciviques ont également incendié 19 maisons, rapporte la société civile de Chari, un village proche. Certains habitants ont été pris en otage par ces hommes armés, ajoute la société civile. Parmi eux, il y a des filles mineures et des adultes qui ont été amenés en brousse vers Kunda. Cette attaque a entraîné le déplacement massif de la population qui a fui dans les entités voisines. Les notables et les acteurs de la société civile plaident pour le lancement des opérations de traque de ces miliciens qui déstabilisent cette région. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Un député national élu du territoire de Nirangongo dans la province du Nord Kivu condamne l'assassinat de l'ambassadeur de l'Italie en RDC lundi 22 février sur l'axe Goma-Rutshuru. Dans une déclaration ce mardi à Radio Okapi, Muteule Moromoro dénonce l'insécurité persistante dans son entité causée par des groupes armés et autres bandits incontrôlés parfois devant toute la passivité des services de sécurité. Pour cet élu national, ce qui est arrivé au convoi du PAB, c'est ce qui vit au quotidien la population sur cet axe routier. Muteule Moromoro déclare que cet incident est inacceptable et les autorités à tous les niveaux doivent en tirer les conséquences et mettre fin à cette problématique. Il est au micro de Sifa Maguru.
Ce n'est pas possible. Une grande personnalité comme celle-là, être assassinée dans ces conditions, on ne comprend rien dans tout ça. Si on arrive à faire ça à des grandes personnalités, voyez combien de fois notre population a beaucoup souffert. Il y a aussi la part des responsabilités de nos services spécialisés de l'armée. Parce que lorsqu'une grande personnalité se déplace, on doit prendre toutes les précautions possibles. À Nyiragongo, on ne peut pas faire 2 ou 3 jours sans qu'il y ait assassinat d'une personne. Et les enquêtes n'aboutissent jamais. Il y a l'impunité totale que la population entière de Nyiragongo nous aide à dénoncer partout. Il peut y avoir un groupe de malfaiteurs. Je voudrais aussi interpeller nos services spécialisés, que ce soit l'armée, la police, les services de renseignement, qu'ils se mettent correctement au travail, parce que nous sommes fatigués avec ces tueries.
Cet élu de Nyiragongo ajoute que son territoire est infesté de groupes armés, notamment dans le parc national de Virunga. C'est entre autres les FDLR, les Nyatura et d'autres qui ne sont pas identifiés mais très actifs. Ces derniers s'illustrent souvent par des attaques, des kidnappings et le commerce des charbons de bois dans le parc. Bouclons ces dossiers en sécurité au Kasaï oriental où un homme a été abattu la nuit dernière en Bujimai au quartier Tchatchatcha dans la commune de Lakanchi, à plus ou moins 500 mètres du groupe mobile d'intervention Gemi en sigle, une unité de la police nationale congolaise. Cet assassinat ramène à 2 le nombre de personnes abattues en l'espace de 2 jours sur la ville. Une situation qui crée la psychose dans le chef des habitants qui estiment être abandonnés à leur triste sort. Explication Esther Ndalafina.
Le meurtre de la nuit dernière s'est produit autour des 20h, une heure avant le début du couvre-feu sanitaire. Les témoins affirment que la victime revenait du travail lorsqu'elle a été surprise non loin de son domicile par des personnes armées non autrement identifiées. Lundi dernier, un motocycliste a été assassiné après avoir été malmené par des personnes armées non autrement identifiées qui lui ont ravi la motocyclette avant de lui loger des balles dans l'abdomen. La victime est morte de suite de ses blessures dans un centre hospitalier. La population lance un cri d'alarme.
Pour tout ce qui se passe pendant la nuit, l'insécurité, ça nous fait peur. Nous n'avons plus la joie de vivre et les autorités s'occupent de ça.
Le maire de la ville qui s'est rendu sur les lieux du drame ce matin affirme que les mesures seront encore renforcées dans ce quartier. Ludor Ntumba.
Nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons encore aujourd'hui renforcer la mesure, particulièrement pour ces coins où c'est chaque nuit, chaque soir, soit on arrache la moto, soit on fait n'importe quoi dans les maisons.
Au niveau de la police nationale congolaise, les enquêtes sont ouvertes pour identifier le meurtrier. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Comme je le disais dans les titres à l'Équateur, les juridictions judiciaires sont en perte de vitesse faute des magistrats. Chaque entité ne dispose que d'un seul magistrat officier du ministère public. La situation perdure depuis plus d'une année. Conséquence, les dossiers des justiciables traînent longtemps. Certains plaignants, à bout de patience, préfèrent se faire justice. Et c'est pourquoi l'Institut de formation internationale en droits humains, vigilance, FDHV, plaide pour la nomination des nouveaux magistrats. Le point, Paul-Richard Malengela.
À nouveau dans sa lettre du 20 février adressée au président du Conseil supérieur de la magistrature, l'IFIDHV a constaté avec regret le manque criant des magistrats à l'Équateur. Pour preuve, l'ONGDH indique qu'au parquet de grande instance de Mbandaka, il y a un seul magistrat, premier substitut, lequel assume l'intérim du procureur de la République, instruit les dossiers, siège aux audiences, contrôle des amigos et j'en passe. Il en est de même au parquet secondaire opérationnel de Mbandaka et de Bassankoussou, où les chefs seuls exercent toutes les fonctions. De quoi craquer pour une seule personne a lâché un d'eux sous l'anonymat. Cependant, des conséquences sont multiples. Maître Edmond Bokolo, avocat au barreau de Mbandaka, en a évoqué quelques-unes.
Il y a des conséquences. Chaque fois que nous arrivons devant l'office du ministère public, nous arrivons devant le juge, vu cette carence de magistrats, en tout cas, il y a des causes qui font 1 année, 2 ans, 3 ans sans que ces dossiers soient prononcés. La conséquence est aussi que là où il y a la carence, on essaie un peu d'utiliser les OPJ qui du reste ne sont pas des juristes. La conséquence aussi pour les justiciables, vous pouvez initier une plainte ou une assignation, la durée peut faire en sorte que les preuves au niveau de la cité ou les traces soient effacées.
Autre conséquence, certains justiciables disent dépenser davantage auprès de leurs avocats conseils sans solution immédiate, ce qui les pousse à ne plus croire à la justice, mais plutôt à se faire eux-mêmes justice. Mbandaka, Paul Charmalengue, la Radio Okapi.
Parlons cette fois de trains de la SNCC. Plusieurs dizaines, voire des centaines de personnes se retrouvent souvent accrochées sur des wagons des trains de marchandises de cette Société nationale de chemin de fer, allant d'un coin à un autre. Et dans bon nombre des cas, certaines meurent dans des accidents. Le dernier cas est celui survenu il y a un mois à Kanyama, dans la province du Haut-Katanga. Comment comprendre que des gens puissent mettre en danger leur vie en optant pour ce genre de voyage? Jean Gandou.
La SNCC qualifie de clandestins tous ceux qui prennent furtivement place à bord des trains voyageurs ou des trains marchandises. Il y en a qui se mettent dans des wagons non couverts et sur des wagons couverts. Ce sont ces derniers qui sont le plus exposés. Ils se font souvent électrocuter par des fils caténaires. D'autres encore se font projeter au moindre déraillement. Ils indiquent que par moments ils se retrouvent sur le train avec la complicité de certains agents de la SNCC. D'autres encore, considérant que les contrôleurs sont moins nombreux, viennent en masse et s'imposent. Il y en a également qui bénéficient de la couverture de certains hommes en uniforme, comme les témoins cet homme que nous avons joint à partir du territoire de Bukama dans la province du Haut-Lomami.
Nous sommes en train de déplorer les transports clandestins favorisés par le militaire en divagation. Vous pouvez imaginer un militaire qui récupère plus de 100 personnes dans d'autres gares. Par exemple, à Luena, nous avons 12 coursiers.
Généralement, ceux qui s'embarquent sur ces trains marchandises en province de Mweneditu pour ne pas se faire attraper descendent dans la gare de Tenke dans le Lualaba. Nous avons aussi contacté un homme habitant la localité de Tenke tout en reconnaissant que les clandestin, il est conscient que lui et plusieurs autres mettent leur vie en danger. Ils profitent néanmoins de ce train marchandise pour aller exercer leur commerce dans d'autres provinces ou d'autres territoires. Ce qui commence car, d'après lui, plusieurs de ses amis ont déjà péri dans ce type de voyage. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
La province du Sud Kivu dispose désormais de sa propre usine de traitement de café avant toute exportation depuis hier mardi. L'usine d'une capacité de démarchage de plus de 2 tonnes par heure va permettre à la province d'augmenter la quantité et la qualité du café produit chaque année. Le café produit dans la province du Sud Kivu est déclaré le meilleur du monde par les grands dégustateurs. François Kambalenzanzo, directeur provincial de l'Office national des produits agricoles du Congo en APAC Sud Kivu, explique au micro d'Emmanuel et la Mijoua Kabedi.
Quand nous avons le café dans les champs, il faut que ce café soit cueilli et ce café doit subir des traitements post-récolte, à savoir ce qui est vert. Donc on doit se débarrasser de toutes les écorces sur le café pour qu'il devienne exportable. Nous estimons dans les 6000 tonnes de café chaque année. Nous pensons réaliser 312 containers. Aujourd'hui, journalistes, nous ne réalisons que 45 containers pendant toute l'année. Et aussi, les conséquences, c'est quoi, monsieur journaliste? Nous manquons les statistiques d'exportation de la province du Sud Kivu alors que nous sommes producteurs de ces cafés. L'usine a la capacité de traiter 2 tonnes par heure de café. Ça peut même aller à 4 et 5 tonnes par heure. Les cafés congolais, surtout les cafés du Sud Kivu ici, nous l'avons même appelé café présidentiel parce que c'est un café qui a eu moins de défauts. J'en appelle maintenant à tous les producteurs de la province du Sud Kivu que l'usine de café est à Bukavu et dans la concession de l'ONAPAC Bukavu. C'est ce qui était ONC dans les temps.
À Kalemi, dans le Tanganyika, l'insalubrité préoccupe la mairie. L'autorité de la ville attribue cet état aux mauvaises habitudes de la part de ses administrés. Elle a exprimé son mécontentement hier mardi au cours de la réunion avec le chef de quartier. Tous ont été instruits pour aller sensibiliser leurs administrés avant que des mesures contraignantes soient prises à l'encontre de Rick Alicitron. De la ville de Kalemi, une correspondance d'Expedi Mwambamoubi.
Hier mardi, des jeunes réunis dans une association dite « Mouvement des jeunes patriotes » se sont mobilisés pour le travail de la salubrité dans la ville. Ils ont débouché les grands collecteurs à la place Kisebwe et à la place Fina, avant de voir leurs efforts anéantis à la fin de la journée. Des plus intermittentes se sont tout simplement invitées jusqu'à ce mercredi matin. Conséquence, la ville perd de plus en plus de sa beauté, ce qui n'est pas du goût du numéro 1 de l'entité. Les chefs de quartier, 16 au total, ont été savonnés ce mardi par Madame le maire à l'intérim. En témoigne Adalbert Mweumpandemoya, chef de quartier Katamboa.
La maire de la ville,
Maman Mati Safari, nous a invités aujourd'hui avec un seul point à l'ordre du jour, à savoir la salubrité de la ville. Et nous a demandé pourquoi, à chaque fois qu'il pleut sur la ville, des déchets se retrouvent dans les collecteurs, dans la ville de Kalemi. Et nous a instruit, nous les chefs de quartier, de tout faire pour que l'insalubrité cesse. Toujours d'après ce participant, la mairie menace d'instaurer des amendes à l'encontre des contrevenants. Kalemi, Expedi Mwambamoubi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Ghana doit recevoir mercredi 24 février la première livraison mondiale de vaccins financés par les dispositifs COVAX qui visent notamment à fournir aux pays à faible revenu leur première dose des vaccins anti-COVID-19, ont annoncé l'UNICEF et l'OMS. Au moins 2 soldats maliens ont été tués et 7 blessés mardi dans une embuscade dans la région des Mopti, dans le centre du Mali, où sévissent des groupes djihadistes, a indiqué l'armée malienne dans la soirée. Vers 14h, une mission de la 53e compagnie d'intervention rapide quittant Sévaré pour Kona est tombée dans une embuscade tendue par des groupes armés terroristes, a indiqué l'armée sur les réseaux sociaux, confirmant des informations obtenues par l'AFP auprès des sources sécuritaires et d'un élu local.
L'invité.
Plusieurs projets de relance économique en vue d'accompagner la réinsertion des ex-combattants ont été identifiés au cours d'une série de réunions il y a quelques jours à Goma entre les gouvernements provinciaux du Nord Kivu et la Banque mondiale. C'est dans le cadre de la relance du processus de démobilisation et réinsertion communautaire des ex-combattants et leur communauté. Quelles sont les avancées jusque-là? Pour en parler, nous recevons Karline Zanzoukasivita, gouverneur du Nord Kivu, qui s'entretient avec Sifa Maguru.
Monsieur le gouverneur, bonjour.
Bonjour.
Vous avez eu une série de réunions avec les représentants de la Banque mondiale, avec différentes autorités, mais aussi vos collègues, les gouverneurs de l'Ituri et du Sud Kivu, sur la problématique de la relance du programme de démobilisation, les DDR communautaires. Nous voulons savoir quelle sera la nouveauté, quelles sont les stratégies que vous avez identifiées pour que ce processus puisse réussir.
Au stade actuel, nous sommes dans la formulation des projets, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la relance économique, spécialement dans les questions des nouvelles lois sur la libéralisation du commerce de l'eau et de l'électricité, que ce soit dans les secteur qui relève de la sécurité du pays, la stabilisation et la paix. C'est à ce niveau, évidemment, qu'on a eu plusieurs réunions avec l'équipe de la Banque mondiale qui a été dans les 3 provinces, le Nord, le Sud et l'Ituri, pour formuler ensemble le projet qui devra accompagner ce que nous appelons la réinsertion communautaire des ex-combattants. Mais dans les discussions qu'on est en train d'avoir avec la banque, nous ne voyons pas que seulement la réinsertion. Nous voyons la relance économique. C'est pourquoi nous avons eu à proposer des projets structurants qui pourront être bénéfiques non seulement aux ex-combattants, mais aussi aux communautés qui ont été victimes des affres de la guerre. Après ces discussions, la Banque mondiale devra avoir des réunions d'abord au sein de la banque pour qu'un accord de financement soit signé entre la République démocratique du Congo. C'est à ce stade que nous pourrions évidemment voir les activités commencer. Mais nous sommes déjà dans le processus. Je l'ai toujours dit qu'il ne faut pas attendre la Banque mondiale pour déposer son arme. Je l'ai toujours dit qu'il ne faut pas attendre tous les autres acteurs internationaux pour donner la chance à la paix dans cette partie de la République.
Monsieur le gouverneur, par rapport à la méthodologie maintenant du processus, des voix se sont élevées pour fustiger le fait de prendre les combattants dans leur milieu, vous les amenez dans des centres éloignés de leur village et là-bas, peut-être la prise en charge ne va pas suivre. Ils sont loin de leur famille, ils n'ont pas de nouvelles et beaucoup de préoccupations. À Walika et par exemple à Pinga, des notables qui ont émis le souhait de voir leurs enfants être démobilisés localement. Vous les appuyez là-bas, vous les formez là-bas et ils ont des opportunités, ils vont relancer les activités. Est-ce que cette idée est en train d'être discutée dans vos réunions?
C'est le soubassement même de l'idée de la réinsertion communautaire. Et là, c'est au niveau, évidemment, de tous les ex-combattants qui seront démobilisés ou qui sont déjà démobilisés, qui vont être réinsérés dans leur vie communautaire. Évidemment, il y a des approches dimensionnelles qu'on est en train de discuter. Et l'idée des gouverneurs de province, y compris moi-même, c'est de voir, évidemment, qu'on ne gaspille pas l'argent dans les transports, mais que l'argent qui sera mobilisé soit capitalisé dans la vraie réinsertion des ex-combattants dans leur communauté.
Vous pensez que ça va prendre encore combien de temps avant que les activités proprement dites puissent commencer? Parce que c'est une problématique qui inquiète quand même beaucoup de gens à la base de l'insécurité.
Il faut avoir de la patience. Il nous faut une session de ratification de l'accord de financement et encore moins que l'accord de financement n'est pas encore disponible. Il faut encore attendre peut-être la session de septembre au niveau du Parlement pour s'assurer que tout est fait prêt. mais cela ne pourra pas nous décourager dans les activités que nous menons au quotidien dans la recherche de la paix.
Pour terminer, est-ce qu'il y a encore des défis que vous craignez par rapport à tous ces travaux-là?
D'abord, je venais de dire les contraintes lié à l'élaboration de ce projet. Nous sommes dans une province où il y a des pandémies, la pandémie à COVID-19 qui nous impose des restrictions. Nous avons aussi, malheureusement encore une fois, la pandémie d'Ebola qui a ressurgi à Butembo. Ce sont des grands défis au fait dans l'élaboration de projets parce que ça peut restreindre le mouvement des experts. Nous avons aussi des défis sécuritaires parce que le projet va concerner aussi des milliers d'euros.
Merci beaucoup, monsieur le gouverneur.
C'est à moi de vous remercier.
Merci à toute l'équipe qui a conclu à la production de ce journal. Alain Goé, la mise en onde d'Élisée Chikota, la coordonnée sous la supervision de Martin Sebujangwe. Quant à moi, Piero Elameji, je vous retrouve tout à l'heure à 13h de Kinshasa pour un point d'actualité. Mais vous pouvez trouver ce journal et l'ensemble de nos informations sur notre site internet www.radiokapi.net.